Salut les kids, vous voulez encore des histoires de rock'n'roll? L'histoire du groupe Indochine débute en mai 1981 avec Dominique, Nicolas et Nicolas Sirkis. Un an plus tard, Stéphane Sirkis, le frère jumeau de Nicolas, rejoint le groupe. Et c'est à partir de 1985 que... Le titre de cet épisode est trompeur et même déceptif. The Jimi Hendrix Experience, Hey Joe, partie 1. Car dans cette première partie, on va beaucoup parler de Hey Joe, chanson à l'histoire compliquée, chanson que tout le monde a chantée avant Jimi. Les Byrds, le groupe Love, pour ne citer que les plus connus. Mais bien peu, voire quasi pas, de Jimi Hendrix. Jimi et son experience, ce sera dans la deuxième partie. Mais bon, restez un peu, vous pourriez apprendre quelque chose. Il y a des chansons dont on peut trouver mille versions. Je ne parle pas ici de cover, mais de réinterprétation. Stagger Lee ou Ida Red font partie de cette famille de chansons apparentées qui partagent un nom, un titre, une histoire ou une mélodie, mais qui peuvent être très différentes d'une version à l'autre. Il y a probablement plus de chansons qui sont comme ça que de chansons qui ne le sont pas. Et cela ne s'applique pas seulement aux chansons folkloriques, même si c'est là qu'on rencontre le plus le phénomène. Il suffit de voir comment une chanson comme Hound Dog est passée de la version de Willie Mitholton à celle d'Elvis Presley, et ça ne partage qu'une poignée de mots avec l'original. Les chansons changent, se recombinent, et chaque personne qui les chante y apporte quelque chose de différent ou y soustrait quelque chose, jusqu'à ce qu'elles chantent d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Bien sûr, il reste généralement un noyau, une histoire, une idée archétypale qui reste constante, peu importe à quel point la chanson change. Comme par exemple la trame Stagger Lee qui tire sur Billy dans un bar à cause d'un chapeau, ou Frankie qui tue son homme, et son homme parfois s'appelle Al, parfois il s'appelle Johnny. Mais c'est toujours parce que l'homme lui a fait du mal. He done her wrong. Car la Murder Ballad est un classique de la chanson traditionnelle, et pas seulement américaine. Et l'une de ces histoires classiques est celle d'un homme qui tire sur sa femme infidèle, en tout cas il la suppose telle, avec un calibre 44, et qui tente de s'enfuir, parfois dans une ville appelée Jericho, parfois à Juarez, au Mexique. La première version de cette chanson dont nous disposons d'un enregistrement est celle de Clarence Ashley, enregistrée en 1929. Un enregistrement d'une ancienne chanson populaire appelée, dans cette version, « Little City ».
Take a little round, I met a little Cindy and I blowed her down. I run right home and I went to bed. A 44 smoke list under my head. I woke next morning at 9:30. The buggies in the hacksaw saw him in line. The gents and the gamblers standing around. I'm going to take Cindy to her burying ground.
Bon. Là, normalement, vous avez déjà décroché une fourche, vous avez allumé une torche et vous êtes dans la rue en train de chercher le capitaine en gueulant. C'est une escroquerie, ça ne ressemble en rien à Hey Joe, tu dis n'importe quoi. Hé les mecs, je parle du thème de la chanson, soyez un peu patients. À un moment donné, quelqu'un semble avoir remarqué que cette chanson présente une légère similitude mélodique avec une autre famille de chansons, la famille des chansons connues sous le nom de Cocaine Blues ou Cocaine Habit Blues ou Take a Whiff on Me, qui était très populaire à l'époque. On écoute tout de suite The Memphis Jug Band, Cocaine Habit Blues. C'est ainsi que les deux chansons ont été combinées et que le protagoniste de Little Sadie avait maintenant une raison de tuer sa femme. Une raison autre que le fait qu'elle le trompe, bien sûr. Il avait pris une bonne dose de cocaïne avant de la tuer. Le premier enregistrement de cette version, sous le nom de Cocaine Blues, semble avoir été une version Western Swing par les Western Asses de W.A. Nicol.
One morning while I'm making my round, took a shot of cocaine and I shot my woman down. Went right home and I went to bed, stuck at loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run but I run too slow, they overtook me down in Juarez, Mexico.
Woody Guthrie, à son tour, a enregistré une version à peu près à la même époque et sa version était créditée comme auteur-compositeur et comprenait ce dernier couplet qui ne semble pas apparaître sur les enregistrements antérieurs de la chanson.
When I was arrested, I was dressed in black. Put me on a train and they brought me back. Jury found me guilty in the first degree and they laid me down in the penitentiary. Yes, the judge found me guilty and the jury too. Cried, Lord in heaven, have some mercy on me. I'll be here for the rest of my life. All I done was kill my wife.
Cette chanson n'apparaît pas non plus sur de nombreux enregistrements ultérieurs, mais elle a clairement influencé une autre chanson, le classique de jazz populaire de Mose Allison, Parchman Farm.
Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm and I ain't never done no man no harm.
Mais évidemment, l'enregistrement le plus célèbre de cette chanson est celui de Johnny Cash, qu'il a enregistré à la fois sous le titre Cocaine Blues et Transfusion Blues. Dans la version de Cash, le meurtrier est condamné à 99 ans, 99 years, de prison à Folsom. Il était donc logique que Cash l'interprète sur l'un de ses albums les plus célèbres, l'album live de ses concerts de janvier 68 à la prison de Folsom. Ses concerts ont relancé sa carrière après plusieurs années d'un succès très limité.
Early one morning while making the round, took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dirty carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
These men have receptions, Matlock.
Alors bien que ce soit le premier enregistrement live de Cash dans une prison, ce n'était clairement pas la première fois qu'il donnait un concert dans une prison. Depuis le succès de son single Folsom Prison Blues, il était devenu une sorte de héros pour les gens en prison, les prisonniers, et il donnait des concerts dans les prisons depuis 11 ans au moment de cet enregistrement. Et lors d'un de ses spectacles, il avait comme première partie un homme appelé Billy Roberts, qui a interprété sa propre chanson, qui suivait les mêmes grandes lignes que Coke and Blues. Un homme, avec un 44, qui sort pour tirer sur sa femme et s'enfuit au Mexique. Roberts est un obscur chanteur folk, qui n'a jamais eu beaucoup de succès, mais qui a le contact facile avec les gens. Il avait fait partie de la scène folk de Greenwich Village dans les années 50, et lors d'un concert au Girls Falls City, il avait rencontré une femme nommée Niela Miller. Et là, je vous demande, et je souligne, retenez bien ce nom. Niela Miller, N-I-E-L-A, Miller, M-I-2-L-E-R. Une aspirante compositrice, et il avait entamé une relation avec elle. Miller n'a écrit qu'une seule chanson qui a été enregistrée par quelqu'un d'autre, une chanson appelée Mean World Blues, qui a été enregistrée par le magnifique Dave Van Ronk.
Oh, tell me, pretty baby, what are you thinking of that makes you tremble and turn away from love? Oh, baby, pretty baby, you've been so good to me, but you are blind, baby, and you can't see. If you look around you, baby, and see what I have seen, you will see this old world is mean.
Il s'agit d'une chanson originale, mais elle présente une certaine ressemblance mélodique avec une autre vieille chanson folk connue sous le nom de « Where did you sleep last night » ou « In the Pines » et parfois « Black Girl ».
My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pines, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl,
ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le blues d'avant-guerre connaissent probablement la version de Nirvana. Ni Ella Miller connaissait manifestement la tradition dont est issue « Where did you sleep last night ?». Il s'agit d'un type de chanson folk où l'interprète pose une question, puis quelqu'un d'autre répond à cette question, et cela se répète en construisant ainsi une histoire. C'est un format de chanson folk très ancien que l'on entend par exemple dans « Lord Randall », la chanson sur laquelle Bob Dylan a basé « A Hard Rain's Gonna Fall ». D'abord, « Lord Randall » par Ewan McCall.
Oh, Lord, here you been, Lord Randall, my son. Oh, Lord, here you been, my bonny young man. I've been to the wild wood, mother, make my bed soon. For I'm weary wi' hunting, and I fain would lie down. Where got ye your supper, Lord Randall, my son?
Et maintenant, Dylan.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways.
I've stepped in... Je dis qu'elle en était manifestement familière, car l'autre chanson qu'elle a écrite et que personne n'a entendue était très très proche de cette idée. Baby, please don't go to town. C'est une chanson de type question-réponse qui reprend exactement cette forme, mais avec une progression d'accords très très inhabituelle pour une chanson folk. Elle utilise le principe du cercle des quintes. Je ne vais pas me lancer dans une explication complexe de théorie musicale, mais l'idée est la suivante. Une progression sur le principe du cercle des quintes, c'est une progression d'accords qui augmente ou diminue d'une quinte à chaque changement d'accord. Ici, ça donne C, G, D, A, E, soit en français, Do, Sol, Ré, La, Mi. Démonstration. Je suppose que les plus mélomanes d'entre vous ont compris où je veux en venir. C'est une progression courante dans la pop et le jazz, mais pas vraiment dans le folk. Mais c'est celle que Ella Miller a utilisée pour « Baby, please don't go to town ». Et donc, elle avait enseigné à Billy Roberts cette chanson qu'elle n'a enregistrée que bien plus tard, en 1962.
Baby, what you gonna do in town?
Quand est survenue la rupture entre Billy Roberts et Niella Miller, ce dernier a continué à jouer cette chanson. Mais il a changé les paroles. Les paroles qu'il a ajoutées avaient plusieurs influences. Il y avait ce format de chanson folk question-réponse qui préexistait dans la chanson. Et puis il y a l'histoire de Coke and Blues avec son protagoniste qui se procure un 44 pour abattre sa femme avant de partir au Mexique. Il y a aussi un hit country de 1953. Une chanson intitulée Hey Joe. Rien à voir avec celle que vous connaissez. Elle a été enregistrée à l'origine par Carl Smith, l'un des chanteurs de country les plus populaires du début des années 50.
Hey Joe, where'd you find that pearly girly? Where'd you get that jolly dolly? How'd you rate that dish I wish was mine? Hey Joe, she's got skin as creamy dreamy, eyes that look so lovey-dovey, lips as red as cherry berry wine. Now listen, Joe, I ain't no hero, but oh, buddy, let me tell you how I feel. She's a honey, she's a sugar pie. I'm warning you, I'm gonna try to steal.
Je vous entends donner des coups de pied dans ma porte en gueulant « Captain, tu recommences !» Je parle d'influence. Restez calme et écoutez. Cette chanson a été écrite par Budlow Bryant quelques années avant les chansons qu'il a coécrites pour les Everly Brothers. Et cette chanson est devenue un numéro 1 country, restant au sommet pendant 8 semaines. Elle n'est pas entrée dans le classement pop, mais une reprise pop de cette chanson par Frankie Lane a été dans le top 10 aux États-Unis.
Hey Joe, where'd you find that pearly girly? Where'd you get that jolly dolly? How'd you rate that dish I wish was mine? Hey Joe, she's got skin that's creamy, dreamy, eyes that look so lovey-dovey, lips as red as cherry berry wine.
Le disque de Lane a fait encore mieux au Royaume-Uni. Il a été numéro 1. Et à un moment où Lane était la plus grande star de la musique en Grande-Bretagne, à l'époque, les charts britanniques n'avaient qu'un top 12. Oui, je sais, c'est bizarre, mais enfin, ils ne conduisent pas du bon côté, de toute façon. Et à un moment donné, 4 des singles du top 12 étaient de Lane, y compris celui-là. Il y avait également un disque de réponse enregistré par Kitty Wells qui s'est retrouvé dans le top 10 country plus tard cette année-là.
Hey Joe, someone stole your pearly girly, walked off with your jolly dolly, maybe now you'll chance to dance with me.
Curieusement, bien qu'il s'agisse d'un très grand succès, ce Hey Joe n'a pratiquement pas fait l'objet d'autres reprises pendant les 20 années qui ont suivi, même s'il a fait partie de la setlist des Searchers et a été inclus dans leur album Live at the Star Club en 1963 dans un arrangement qui devait beaucoup à What I Say. Mais cette chanson était clairement dans l'esprit de Roberts lorsque, comme tant de musiciens folk américains, il s'est rendu au Royaume-Uni à la fin des années 50 et s'est brièvement impliqué dans le mouvement folk britannique qui était naissant. Il a notamment passé quelques temps avec un guitariste jouant de la guitare 12 cordes, originaire d'Edinburgh, Len Partridge, qui a également été le mentor de Bert Jansch. Autant vous dire que le type était probablement pas manchot et qui était apparemment un musicien extraordinaire, bien que je ne connaisse aucun enregistrement de son travail. Partridge a aidé Roberts à terminer la chanson Et bien que Partridge soit à peu près la seule personne dans cette histoire qui n'a pas revendiqué un crédit d'écriture pour la chanson à un moment ou à un autre, il a juste aidé Roberts, c'est ce qu'il a dit. Et Roberts mérite tout le crédit, c'est également ce qu'il a dit. Le premier enregistrement connu de la chanson terminée date de 62, quelques années après le retour de Roberts aux États-Unis. Mais il n'est apparu sur un enregistrement officiel que des décennies plus tard.
This is Bill Roberts, and this is a tape of folk songs of various and sundry categories from America, dedicated to a friend of mine named Barry Friedman. This is a little song of mine that I just call Hey Joe.
Roberts interprétait régulièrement cette chanson sur le circuit folk. Et à l'époque de cet enregistrement, il a finalement enregistré le droit d'auteur, plusieurs années après l'avoir écrite, enfin co-écrite. Lorsque Neela Miller a entendu la chanson, elle a été furieuse. Et elle a déclaré plus tard « Imaginez ma surprise lorsque j'ai entendu le Hey Joe de Billy Roberts. Il y avait ma mélodie, ma progression d'accords, mon format question-réponse. Il a juste laissé tomber le pont qui était dans ma chanson et l'a suffisamment modifié pour que les droits d'auteur ne me protègent pas de son plagiat. J'ai décidé de ne pas aller jusqu'au bout à cause de toutes les complications judiciaires que cela aura entraînées. Il ne m'a jamais contacté à ce sujet et ne m'a jamais accordé le moindre crédit. Il sait qu'il a commis un acte moralement répréhensible. Il n'a jamais eu le courage de faire amende honorable et de s'excuser auprès de moi ni de m'attribuer au moins le mérite de l'inspiration. C'est aussi à cause de tout cela que j'ai décidé de ne pas devenir auteur-compositeur professionnel et que j'ai laissé tomber la musique. Cela m'a laissé un goût très amer dans la bouche. Pete Seeger, un ami de Miller, est scandalisé par cette injustice et propose de témoigner en sa faveur si elle décide de poursuivre Roberts en justice. Mais elle ne le fera jamais. Alors, j'ai dit retenez bien ce nom, Niella Miller. C'est une femme, et c'est elle qui a écrit les fondations de Hey Joe. À peu près à ce moment-là, Roberts a également joué sur scène, une scène de prison, avec Johnny Cash. Et ce qui s'est passé ensuite est difficile à dire avec exactitude. J'ai lu plusieurs versions différentes de l'histoire, qui changent la date, qui changent la prison dans laquelle il se trouvait, et aucun des détails de l'histoire ne s'emboîte correctement. Tout introduit des incohérences bizarres et des choses qui n'ont simplement aucun sens. Quelque chose comme ce schéma de base de l'histoire semble s'être produit. Mais le schéma lui-même est déjà bizarre et nous ne saurons probablement jamais la vérité. Roberts a joué son set et l'une des chansons qu'il a jouées était « Hey Joe ». Et à un moment donné, il a discuté avec l'un des prisonniers dans le public, un mec nommé Dino Valenti. Il était lui-même auteur-compositeur-interprète et sera plus tard le chanteur du groupe Quicksilver Messenger Service. Mais il est probablement plus connu pour avoir écrit une chanson qui s'appelle « Get Together ».
Love is but the song we sing, and fear is the way we die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Know that love is on the wing, and you need not know why. Well, people now, and get together with a smile on your brother, trying to love one another right now. Some will come and some will go, but we will surely pass.
Valenti a en fait vendu ses droits sur cette chanson, Get Together, pour payer sa caution à un moment donné où il était en prison pour des histoires de drogue. Mais il a passé sa vie à rentrer et sortir de prison à plusieurs reprises à cause de sa consommation de drogue. À ce moment-là, ou du moins c'est ce que raconte l'histoire, il était admissible à la libération conditionnelle. Mais il devait prouver qu'il avait un revenu possible à sa sortie. Et l'une des façons de le faire était de montrer qu'il avait écrit une chanson qui pourrait être un succès et lui rapporter de l'argent, comme il l'avait fait dans le passé, mais il n'avait pas une telle chanson sous la main. Il était un peu en panne créative. Il a parlé de sa situation compliquée à Robert, qui a accepté de le laisser prétendre avoir écrit « Hey Joe » pour qu'il puisse sortir de prison. Et quand il est sorti de prison, il avait dû s'habituer à l'idée, parce qu'il a continué à dire partout que « Hey Joe » était sa création. Et a même enregistré le droit d'auteur de « Hey Joe » en son propre nom, même si Roberts l'avait déjà enregistré précédemment. Et puis, il a signé un contrat d'édition pour cette chanson avec Third Story Music, une société appartenant à Herb Cohen et son frère Mutt. Pour rappel, Herb Cohen est le futur manager des Mothers of Invention et des Tom Waits. Valenti était un visage connu sur la scène folk et il a joué « ça », entre guillemets, chanson à de nombreuses personnes. Mais deux personnes en particulier allaient influencer la façon dont la chanson allait évoluer. Nous reviendrons plus tard sur l'un d'eux, Vince Martin, mais l'autre était David Crosby. Nous allons donc parler un peu plus de lui et des Byrds. Crosby et Valenti étaient amis bien avant la formation des Byrds. Et d'ailleurs, le groupe s'était nommé d'après une chanson de Valenti, une chanson qui s'intitule « Byrds ».
Theirs is a pretty house, theirs is, in a pear tree, full of pears.
'cause they're birds you see, and they live in a tree, and they never need ladders or any stairs.
Crosby adorait la chanson Hey Joe, qu'il croyait être une chanson écrite par son ami Valenti. Il l'interprétait dès qu'il en avait l'occasion. Il la jouait en solo à la guitare dans un arrangement que d'autres ont comparé à Mose Allison. Il avait essayé de la faire figurer sur les deux premiers albums des Byrds, mais avait essuyé un refus, principalement à cause de leur manager et coproducteur non crédité, Jim Dixon, qui avait de fortes opinions à ce sujet. Il déclarera plus tard: certaines chansons que David apportait de l'extérieur étaient parfaitement valables pour d'autres personnes, mais ne semblaient pas compatibles avec le style des Byrds. Il s'est battu pour Hey Joe, et il a finalement eu gain de cause. Tant que je pouvais dire non, je le faisais. Quand je ne pouvais plus, il passait en force. Il fallait bien lui donner quelque chose, quelque part. J'aurais aimé que ce soit quelque chose d'autre. J'étais farouchement opposé à Hey Joe, une chanson qui parle d'un mec qui assassine sa petite amie dans une crise de jalousie et se barre au Mexique avec un flingue à la main. Ce n'était pas exactement ce que je prenais pour une chanson des Byrds. En effet, Dixon était tellement opposé à la chanson qu'il dira également plus tard: l'une des raisons pour lesquelles David a fait en sorte que je sois expulsé était que je ne voulais pas de Hey Joe sur l'album Turn, Turn, Turn. Cependant, Dixon travaillait toujours avec le groupe lorsqu'ils ont commencé à l'enregistrer. C'était pendant l'enregistrement de leur album Fifth Dimension, l'album qui comprenait 8 Mile High. Cet album a été enregistré en grande partie après le départ de Gene Clark. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on parle de Gene Clark, mais là on parle d'autre chose. Et la perte de leur principal auteur-compositeur signifiait qu'ils avaient du mal à trouver du matériel intéressant, d'autant plus qu'ils avaient également décidé de s'éloigner des reprises de Dylan. Ils ont donc dû s'en remettre aux compositions originales et aux auteurs-compositeurs moins commerciaux du groupe et à quelques chansons folkloriques, principalement apprises de Pete Seeger. L'album ne contient finalement que 11 chansons, contre 12 pour les Américains de l'époque et les singles qui suivent. 8 Mile High ne sont pas particulièrement prometteurs quant à la capacité du groupe à proposer des titres commerciaux. Le single suivant, 5D, une chanson de Roger McGuinn à propos de la cinquième dimension, est une chanson en forme de valse qui a enthousiasmé Crosby et Chris Hillman. On y retrouve l'orgue de Van Dyke Parks et McGuinn a déclaré à propos de cette partie d'orgue: quand il est arrivé en studio, je lui ai dit « Vas-y, pense à Bach ». Et de toute façon, il pensait déjà à Bach avant ça.
Oh, how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through, just relaxed and paying attention. All my two-dimensional boundaries were gone. I had lost to them badly. I saw that world crumble and thought I was dead, but I found my senses still working. And as I continued to drop through the hole, I found...
Bien que le groupe l'ait aimé, cette chanson n'attient pas le top 40. Le single suivant l'a fait, de justesse, une chanson de McGuinn qu'il avait écrite pour tenter de communiquer avec les extraterrestres. Oui, il y avait beaucoup de drogue qui circulait à l'époque. Il espérait qu'elle serait diffusée à la radio et que les ondes radio se perdraient et finiraient dans l'espace par atteindre les extraterrestres, qui l'entendraient et qui peut-être lui répondraient. La chanson s'appelle Mr. Spaceman.
Woke up this morning with light in my eyes, and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people up tight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey,
l'album Fifth Dimension fait nettement moins bien, tant sur le plan critique que sur le plan commercial. Il fait moins bien que les albums précédents et le groupe abandonne bientôt Alan Stanton, le producteur, au profit de Gary Husher, l'ancien partenaire de Brian Wilson, pour la composition de chansons. Mais le désespoir de trouver du matériel a fait que le groupe a accepté d'enregistrer la chanson, dont il pensait encore à l'époque qu'elle avait été écrite par l'ami de Crosby, bien que personne d'autre que Crosby n'en était satisfait. Et même Crosby a déclaré plus tard « c'était une erreur, j'aurais pas dû le faire, tout le monde fait des erreurs ». Nota bene, Crosby a prononcé cette phrase très, très, très souvent et à propos de plein de sujets différents. McGuinn a déclaré plus tard la raison pour laquelle Crosby a fait le lead sur Hey Joe est que c'était sa chanson. Il ne l'a pas écrite, mais c'est lui qui l'a trouvée et qui l'a apportée. Il voulait la faire depuis des années, mais on ne l'avait jamais laissé faire.
Hey Joe, where are you going with that money in your hand? Hey Joe, where are you going with that money in your hand? I'm gonna find my woman, she's running around with some other man. Gonna go downtown, buy me a blue steel 44. I'm gonna go downtown, gonna buy me a blue steel 44. When I find my woman, she's not gonna run.
Pour ceux qui ne connaissaient pas cette version, je suis désolé, hein, c'est pas leur meilleur travail. Alors, cet arrangement est très éloigné de la version de style Mose Allison que Crosby faisait seul à la guitare auparavant, et la raison de cela se trouve dans la version complète de cette citation de McGuinn, car la version complète continue. Il voulait le faire depuis des années, mais nous ne l'avions pas laissé faire. Puis, Love et The Leaves ont eu un petit succès avec cette chanson, et David était tellement en colère qu'on a dû le laisser faire. Cette version n'était pas très bonne, parce que c'était pas un très bon lead singer. L'arrangement que nous venons d'entendre était celui que presque tous les groupes de la scène du Sunset Strip jouaient à ce moment-là. Et la raison en est un autre ami de Crosby, quelqu'un qui avait été roadie pour les Byrds, Brian McLean. McLean et Crosby avaient été très proches parce qu'ils venaient tous les deux de milieux très similaires. Ils étaient tous deux des gamins de Hollywood avec un ego démesuré. McLean dira plus tard: Crosby et moi nous entendions parfaitement. Je ne comprenais pas ce dont tout le monde se plaignait à son propos parce que il était exactement comme moi. McLean est issu d'un milieu encore plus privilégié que Crosby. Son père était un architecte qui avait conçu des maisons pour Elizabeth Taylor ou Dean Martin. Et il avait pour voisin Frederick Lowe, le compositeur de My Fair Lady. Il avait appris à nager dans la piscine privée d'Elizabeth Taylor. Et sa première petite amie était Liza Minnelli. Une autre de ses premières petites amies était Jackie DeShannon. McLean avait voulu être un artiste depuis la fin de son adolescence. Il était entré dans un magasin de Westwood qui vendait parfois ses peintures, le Sandal Shop, et il a entendu des gens y chanter des chansons folk. Il a alors décidé de laisser tomber la peinture et de devenir chanteur folk. Il a commencé à se produire au Balladeer, un club qui sera plus tard rebaptisé Troubadour. Il y interprétait des chansons comme le Crossroad Blues de Robert Johnson, qui était récemment devenu un élément de base du répertoire folk suite à la sortie de l'album King of the Delta Blues Singer par le producteur John Hammond. Thank you. interviews des personnes qui connaissaient McLean à l'époque, la même phrase revient sans cesse. John Kay, qui deviendra plus tard le chanteur de Steppenwolf, a déclaré « Il y avait un jeune garçon, Brian McLean, un peu arrogant, mais néanmoins un gentil garçon. Il traînait tout le temps avec Crosby et McQueen. » Tandis que Chris Hillman a dit « C'était un bon garçon, mais un peu arrogant. » Il était un fan des différents musiciens qui formèrent plus tard les Byrds et était également un admirateur d'un jeune guitariste de la scène de LA nommé Rylan Cooder et d'un chanteur de blues nommé Taj Mahal. Il a apparemment été brièvement dans un groupe avec Taj Mahal appelé Summer's Children, qui, pour autant que je sache, n'avait aucun lien avec le duo du même nom formé par Kurt Butcher avant que Taj Mahal et Cooder ne forment les Rising Suns, un groupe de blues multiracial qui a été pendant un certain temps le principal rival des Byrds. McLean, cependant, s'est fermement attaché aux Byrds et particulièrement à Crosby. Il est devenu roadie lors de leur première tournée et Hillman a déclaré « C'était un gars qui travaillait dur pour nous, si je me souviens bien, il travaillait plus ou moins pour Crosby. C'était l'assistant de David, pour le dire de manière diplomatique. En fait, c'était son homme à tout faire. » Mais McLean n'est pas taillé pour le dur labeur qu'exige le métier de roadie. Et après avoir été le roadie des Byrds pendant une trentaine de concerts, il commence à faire des erreurs et lorsqu'ils partent en tournée au Royaume-Uni, ces derniers décident de ne pas l'employer. Il en a eu le cœur brisé, mais il s'est remis à tenter sa propre carrière musicale. Il a passé une audition pour les Monkees, le boys band créé pour la télé, sans succès, mais peu de temps après, certaines sources disent même, le jour même de l'audition, bien que cela semble un petit peu trop beau, il est allé au Ben Franks, le lieu des auditions à Los Angeles, et il y a rencontré Arthur Lee et Johnny Eccles. Arthur Lee et Johnny Eccles fonderont plus tard le groupe Love. Eccles se souviendra plus tard. C'était une sorte de mouche du coche qui connaissait tout le monde et passait de table en table. Il portait un pantalon rayé et un foulard. Il avait de longs cheveux couleur fraise. Toutes les filles l'adoraient. Pour une raison quelconque, il est venu s'asseoir à notre table. Bien sûr, Arthur et moi étions les deux seules personnes noires présentes à l'époque. Lee et Eccles étaient tous les deux des musiciens noirs nés à Memphis. Le père biologique de Lee, Chester Taylor, avait été cornettiste chez Jimmy Lunceford, dont les Delta Rhythm Boys avaient eu un succès avec The Honey Dripper.
He's a killer, the honey dripper. Soft, sweet, hot, he's a solid old cat. Really?
Cependant, Taylor se sépare rapidement de la mère de Lee, une institutrice, et elle épouse Clinton Lee, un tailleur de pierre qui adore son fils adoptif. Et ils déménagent en Californie. Ils vivent dans un quartier relativement prospère de Los Angeles, un quartier presque entièrement blanc, avec quelques familles asiatiques. Et le boxeur Sugar Ray Robinson vit à proximité. Un an environ après l'arrivée d'Arthur et de sa mère à Los Angeles, la famille Eccles, qui les avait connus à Memphis, fait de même et déménage à quelques rues de là. Arthur Lee, âgé de 8 ans, reprend contact avec Johnny Eccles, âgé de 7 ans, et les deux deviennent inséparables. Arthur Lee a commencé à jouer de la musique lorsque ses parents lui ont acheté un accordéon, convaincu par un vendeur qui se promenait avec un âne et offrait aux enfants des tours d'âne gratuits pendant qu'il faisait son discours commercial aux parents en leur bourrant le mou pour qu'ils achètent un instrument. Arthur Lee a rapidement abandonné l'accordéon et a persuadé ses parents de lui acheter un orgue à la place. C'était un enfant gâté au dire de tous. Il avait une télévision dans sa chambre, ce qui n'avait absolument aucun sens à la fin des années 50. Johnny Eccles a vécu une expérience similaire qui a conduit ses parents à lui acheter une guitare. Et tous deux ont grandi dans un environnement musical. Ils ont fréquenté la Dorsey High School en même temps que Billy Preston. Et Ella Fitzgerald et son mari de l'époque, le grand bassiste de jazz Ray Brown, ont vécu dans le même immeuble que la famille Eccles pendant un certain temps. Ornette Coleman, le saxophoniste de Free Jazz, vivait à côté de Eccles et Adolphus Jacobs, le guitariste des Coasters, lui donnait des leçons de guitare. Arthur Lee connaît également Johnny Otis, qui dirige un club d'élevage de pigeons pour les enfants noirs du quartier, auquel Arthur participe. Nota bene, quitte à me répéter, on ne dira jamais assez à quel point Johnny Otis fut un bienfaiteur pour la communauté noire et en particulier pour les musiciens dans une époque où la norme était de profiter d'eux ou de les traiter comme de la merde. Mais revenons à Arthur Lee et Johnny Eccles. C'est Eccles qui, le premier, a suggéré qu'Arthur et lui devraient monter un groupe. Et ils ont monté un groupe pour jouer lors d'un concours de talent à l'école, en interprétant Last Night, l'instrumental qui avait été un succès pour les Marquees, le groupe des Disc Stax. Deviennent rapidement un groupe régulier, se nommant Arthur Lee and the Lags, LAG, L-A-G, voulant dire LA Group, le groupe de Los Angeles, en imitation de Booker T and the MGs, le Memphis Group. C'est à cette époque que Lee décide de passer de l'orgue à la guitare. Il dira plus tard que cette décision lui a été inspirée par la vue de Johnny Guitar Watson, sortant d'une Cadillac en or, portant un costume en lamé or, avec des dents en or dans la bouche. Les LAG ont commencé à jouer en première partie et en accompagnement de tous les groupes de blues et de soul qui passaient par LA. Ils ont ainsi accompagné Big Mama Thornton, Johnny Otis, les OJs, etc. Arthur et Johnny n'avaient pas encore l'âge requis, mais ils se mettaient de fausses moustaches pour jouer dans les clubs afin de paraître plus âgés. Dans les années 50 et au début des années 60, il y avait un certain nombre de grands guitaristes électriques jouant du blues sur la côte ouest. Johnny Guitar Watson, T-Bone Walker, Guitar Slim et bien d'autres. Ils étaient en compétition les uns avec les autres, donc non seulement il fallait bien jouer, mais il fallait aussi faire le show. Il y avait donc tout un tas de trucs de scène que les guitaristes R&B de la côte ouest découvraient et apprenaient, et Eccles les a tous appris. Jouer de la guitare derrière son dos, jouer avec sa guitare entre les jambes, jouer de la guitare avec ses dents, etc. Ils avaient un agent corrompu qui les réservait sous le nom de n'importe quel groupe noir qui avait du succès à l'époque. Souvenez-vous, la plupart des 45 tours n'avaient pas de photos sur les pochettes. Donc, de toute façon, presque personne ne savait à quoi ressemblaient les groupes populaires. Ils se produisaient donc sous le nom de Drifters, des Coasters et d'une demi-douzaine d'autres groupes. Mais Arthur Lee, en particulier, voulait avoir du succès à part entière en son propre nom. Il dira plus tard, « Quand j'étais un petit garçon, j'écoutais Nat King Cole et je regardais le logo violet de Capitol Records. Je voulais être sur Capitol. C'était mon objectif. » Plus tard, j'avais l'habitude de marcher de la Dorsey High School jusqu'au bâtiment de Capitol à Hollywood. Oh, je l'ai fait de nombreuses fois. J'étais déterminé à obtenir un contrat d'enregistrement avec Capitol. Et je l'ai fait, sans l'aide d'un manager fantaisiste ou de qui que ce soit. J'ai parlé à Adam Ross et Jack Levy chez Ardmore Beachwood. J'ai parlé à Kim Foley et ensuite, j'ai parlé à Capitol. Les disques que les LAG ont sortis n'étaient pourtant pas très très bons. Par exemple, ce titre intitulé « Rumble Steel Skins ». Pour se défendre, Lee a déclaré plus tard « J'étais jeune et très inexpérimenté. Et je testais la maison de disques. Je me suis dit que si je leur donnais mes pires trucs et qu'ils m'arnaquaient, comme c'était courant, je ne serais pas blessé. Mais ça n'a pas marché. Et après ça, j'ai commencé à donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce que je fais depuis. » Les LAG ont été lâchés par Capitol après un seul single. Et pendant un certain temps, Arthur et Johnny ont travaillé pour de plus petits labels, généralement ceux de Bob Keane, Arthur écrivant et produisant et Johnny jouant de la guitare. Bien que Eccles ait déclaré plus récemment que beaucoup de chansons créditées à Arthur en tant qu'artiste solo étaient en fait des compositions communes. La plupart de ses disques sont des tentatives systématiques de copier le style d'autres personnes. Il y avait I've Been Trying, un plagiat de Phil Spector, sorti par Little Ray.
Well, I've been trying.
Puis il y a eu quelques tentatives de sonner comme Curtis Mayfield, par exemple Slow Jerk de Ronnie and the Pomona Casuals. Et pour finir, il y a eu My Diary de Rosa Lee Brooks. Eccles jouait également avec beaucoup d'autres personnes. Et l'un des musiciens avec lequel il jouait, son ancien camarade d'école Billy Preston, lui a parlé d'une récente tournée européenne qu'il avait faite avec Little Richard et un groupe de Liverpool avec lequel il s'était lié d'amitié pendant qu'il était là-bas. Et ces mecs idolâtraient Richard. De sorte que, lorsque les Beatles sont arrivés en Amérique, Arthur et Johnny avaient déjà tout le contexte et avaient déjà tout compris. Ils se séparent rapidement des LAG et forme un autre groupe, les American Four, avec deux musiciens blancs, le bassiste John Fleckenstein et le batteur Don Costa. Lee leur fait porter des perruques pour qu'ils aient l'air d'avoir des cheveux plus longs et commence à s'habiller de façon beaucoup plus excentrique. Il sera bientôt connu pour porter des lunettes avec un verre bleu et un verre rouge et, comme il le dit lui-même, porter 40 livres de perles, deux manteaux, trois chemises, c'était ça mon truc. En plus des Beatles, les American Four sont inspirés par les autres groupes de la British Invasion. Arthur est dans le public du Tamie Show et est très impressionné par Mick Jagger. Et aussi par les Valentinos, le groupe de Bobby Womack. Il essaie d'ailleurs de se faire signer sur Sar Records, le label de Sam Cooke, pour lequel les Valentinos ont enregistré. Mais Sar n'est pas intéressé et ils finissent par enregistrer sur Delphi, de Bob Keane, où ils enregistrent Lucy Burns, une imitation de Twist and Shout assez maladroite avec des paroles qui font référence à la fille du nouveau président américain, Lyndon Johnson. Mais le titre n'a pas plus décollé que les disques précédents. Un autre titre d'American Four, Stay Away, a été enregistré mais est resté inédit jusqu'en 2006. Bientôt, les American Four changent à nouveau de son, et donc de nom. Cette fois, c'est à cause de deux groupes qui commençaient à avoir du succès sur le Sunset Strip. L'un était les Byrds, qui, selon Lee, faisait de la musique comme celle qu'il entendait dans sa tête, et l'autre était leur rivaux, les Rising Suns, le groupe de blues dont nous avons parlé plus tôt avec Taj Mahal et Ry Cooder. Lee était très impressionné par ce groupe multiracial qui faisait de la musique agressive avec une grosse présence des guitares, même s'il a toujours insisté, en parlant d'eux-mêmes, sur le fait que eux, c'était un groupe de blues, pas un groupe de rock, que c'était lui, Arthur Lee, qui avait fait le premier groupe de rock multiracial. Quoi qu'il en soit, sur leurs enregistrements, produits par le premier producteur des Byrds, Terry Melcher, les Rising Suns ont souvent le même son folk-punk de groupe de garage que Lee et Eccles feront bientôt leur. Mais alors que les Rising Suns ont enregistré un album complet, un seul single est sorti avant leur séparation. Et la voie était libre pour que le groupe de Lee et Eccles, rebaptisé cette fois-ci The Grassroots, pour devenir les nouveaux challengers des Byrds. Lee a déclaré plus tard « J'ai nommé le groupe The Grassroots à la suite d'un voyage ou d'un album que j'ai entendu de Malcolm X où il disait « Les racines du peuple sont dans la rue » et agissent sur les problèmes au lieu de rester assis à en parler. The Grassroots. Après avoir vu les Rolling Stones et les Byrds en concert, Lee voulait être devant et bouger comme Jagger, et ne pas être gêné par le fait de jouer d'une guitare pour laquelle de toute façon il n'était pas particulièrement doué. Les Stones et les Byrds avaient tous deux des guitaristes et un frontman qui ne faisaient que jouer et chanter des percussions à la main, et c'était les modèles que Lee suivait pour le groupe. Il pensait que ce serait une bonne idée commerciale d'avoir un beau garçon blanc en avant. Le groupe a donc engagé aussi un autre guitariste, un beau garçon blanc, avec lequel Lee s'est rapidement brouillé et qu'il a surnommé Bummer Bob, Bob le Clodo, parce qu'il était désagréable à fréquenter. Ceux d'entre vous qui savent exactement pourquoi Bobby Beausoleil est devenu célèbre plus tard seront probablement d'accord pour dire que c'était un surnom plus que raisonnable à lui donner. Et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, sachez que Bobby Beausoleil est l'un des assassins sanguinaires de la Manson Family, la secte de Charles Manson. Alors, Bobby Beausoleil vient de se faire lourder. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand Brian McLean s'est présenté à Lee et Eccles et qu'ils ont découvert que non seulement il était beau, qu'il était guitariste, mais qu'il était aussi ami avec tout le cercle des hipsters qui allaient au concert des Byrds et qu'il pouvait attirer une foule d'entre eux à leur propre concert, eh bien, le sujet de conversation est devenu « Hey, tu viens dans le groupe parce que nous, on vient de perdre notre guitariste. » Mais les Grassroots doivent bientôt changer à nouveau de nom. En 1965, P.F. Sloan et Steve Barry, les auteurs-compositeurs qui se produisaient également sous le nom de Fantastic Baggies, avait imaginé une chanson pour un album intitulé « Where Were You When I Needed You ?»
Don't bother crying, don't bother crawling, it's all over now, no use in stalling. The love I once felt, I don't feel anymore for you. This time I'll even open the door for you. You walked out when I was down.
Sloan and Berry ont décidé d'enregistrer leur propre version de cette chanson sous le nom d'un faux groupe, puis de réunir un groupe d'autres musiciens pour partir en tournée sous ce nom. Ils avaient juste besoin d'un nom, et Lou Adler, le directeur de Dunhill Records, leur a suggéré de s'appeler The Grassroots, et c'est ce qu'ils ont fait. Eccles affirmera plus tard qu'il s'agissait d'une malveillance délibérée de la part de Lou Adler. Adler était arrivé ivre à un concert des Grassroots et avait fait semblant de vouloir leur faire signer un contrat, surtout pour impressionner la femme avec qui il était venu au concert. Eccles et McLean lui ont parlé, sans savoir qui il était, et il s'est senti manqué de respect. Et Eccles prétend qu'il a suggéré le nom pour se venger d'eux, et aussi pour capitaliser sur leur succès local. Les nouveaux Grassroots ont rapidement commencé à avoir du succès, et l'ancien groupe a donc dû trouver un autre nom, à nouveau, qu'ils ont obtenu en faisant référence à un travail de jour que Arthur Lee avait eu à un moment donné. Il avait apparemment travaillé dans un magasin de soutien-gorge spécialisé appelé Love Brassière. Le reste du groupe trouvait ça hilarant et se foutait régulièrement sa gueule. The Grassroots est donc devenu le groupe Love. Alors qu'Arthur Lee était le chanteur principal du groupe, Brian McLean chantait souvent les harmonies et obtenait une ou deux chansons à chanter lui-même en concert. Et très tôt dans la carrière du groupe, alors qu'il jouait dans un club appelé Bidolitos, il a commencé à faire sa vedette avec une version de Hey Joe qu'il avait apprise de son vieil ami David Crosby et qui est rapidement devenu le point culminant du set du groupe. Leur version était accélérée et comprenait le riff que les Searchers avaient popularisé dans leur reprise de Needles and Pins, la chanson enregistrée à l'origine par Jackie DeShannon, l'ancienne petite amie de McLean.
I loved, and I knew I had to run away, get down on my knees and pray that they'd go away, but still they began.
Ce riff, presque ce gimmick, est très simple à jouer, et des variantes de celui-ci sont devenues très courantes parmi les groupes de Los Angeles, notamment sur I'll Feel a Whole Lot Better des Byrds.
The reason why, oh, I can say, I have to let you go, and right away, after what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone.
Ce riff était tellement omniprésent sur la scène de Los Angeles qu'à la fin des années 80, Frank Zappa le citait encore comme l'un de ses principaux souvenirs de cette époque. Je vais citer cet extrait de son autobiographie où il parle des différences entre la scène de Los Angeles dont il faisait partie et la scène de San Francisco pour laquelle il déclarait n'avoir pas de temps à consacrer. Les Byrds étaient la crème du rock de Los Angeles à l'époque. Ils étaient LE truc. Puis un autre groupe appelé Love est devenu LE truc. Il y avait quelques groupes psychédéliques qui n'ont jamais été vraiment LE truc, mais ils pouvaient quand même trouver du travail et obtenir des contrats d'enregistrement. Notamment le West Coast Pop Art Experimental Band, Sky Saxon and the Seeds et The Leaves, connus plus tard pour leur reprise de Hey Joe. Lorsque nous sommes allés pour la première fois à San Francisco au début de Family Dog, il semblait que tout le monde portait le même costume. Un mélange de Barbary Coast et de Old West. Des gars avec des moustaches en forme de guidon de vélo, des filles en grande robe à tournure avec des plumes dans les cheveux, etc. En revanche, les costumes de LA étaient beaucoup plus hasardeux et farfelus. Musicalement, les groupes du Nord avaient un style un peu plus country. À LA, c'était du folk rock à mort. Tout le monde avait ce putain de truc. L'accord de Ré en bas du manche où tu fais bouger ton petit doigt comme sur Needles and Pins. La raison pour laquelle Zappa le décrit ainsi et la raison pour laquelle il est devenu si populaire est que si vous jouez un accord de Ré et que vous faites ce riff, les accords sont Ré, Ré seconde, Ré 4, ce qui signifie que en fait, vous faites une position de Ré et ensuite vous bougez juste votre auriculaire que vous appuyez sur la case suivante, que vous relâchez et que vous remettez sur la troisième case. C'est très simple à faire et on retrouve sur une tonne de disques de cette période, même si Love, les Birds et les Searchers jouent tous le riff en La plutôt qu'en Ré. Ce riff est donc devenu la grande affaire de Los Angeles après que les Birds y aient popularisé le son des Searchers et Love l'a ajouté à leur arrangement de Hey Joe. En janvier 1966, le groupe enregistrera son arrangement pour son premier album qui sortira en mars. Mais ce ne sera pas le premier enregistrement de la chanson, ni de l'arrangement de Love. Bien qu'à part les versions des Birds, ce sera le seul à sortir de LA avec les paroles originales de Billy Roberts. Les interprétations de la chanson par Love aux Beatles sont devenues le sujet de conversation de la scène du Sunset Strip et bientôt tous les groupes dignes de ce nom l'ont copié. Et elle est devenue l'une de ces chansons comme Louie Louie avant elle que tout le monde jouait. Absolument tout le monde. Le premier disque jamais réalisé avec la mélodie de Hey Joe avait en fait des paroles totalement différentes. Kim Foley a eu l'idée d'écrire une suite à Hey Joe, intitulée Wanted Dead or Alive, sur ce qui s'est passé après que Joe a tiré sur sa femme et soit parti. Il a produit le morceau pour The Rogues, un groupe composé de Michael Lloyd et Sean Harris, qui ont ensuite formé le West Coast Pop Art Experimental Band, dont parlait Zappa un peu plus haut, et Lloyd et Harris étaient les auteurs crédités. La version suivante de la chanson fut la première à être publiée sous le nom de Hey Joe, ou du moins sous le nom de Hey Joe, Where You Gonna Go, qui était le titre de la version initiale, celle de Niella Miller. Il a été réalisé par un groupe appelé The Leaves, qui était, des amis de Love et avait repris « Hey Joe ». Et cette session a été produite par Nick Venett. C'est aussi le premier à avoir mis la phrase d'ouverture désormais familière « Hey Joe, where are you going with that gun in your hand ?» L'original de Roberts, tel que chanté par Love et par les Byrds, était « Where you going with that money in your hand ?» Et Joe était parti pour acheter un flingue. Mais comme Eccles l'a dit plus tard, ce qui s'est passé, c'est que Bob Lee, des Leaves, qui était un ami, nous a demandé les paroles de « Hey Joe ». Je lui ai dit que j'aurais les paroles le lendemain. J'ai décidé d'écrire des paroles un peu différentes. Les paroles que vous entendez sur leur disque sont celles que j'ai écrites un peu pour leur faire une mauvaise blague. Les paroles originales de Hey Joe sont « Hey Joe, où vas-tu avec cet argent dans ta main ? Je vais en ville, m'acheter un 44 en acier bleu, et quand je rattraperai cette femme, elle ne traînera plus dans les parages. » Les paroles que je leur ai filées, c'est « Hey Joe, où vas-tu avec un flingue à la main ?» Ce sont les paroles que j'ai écrites parce que je savais qu'ils allaient essayer de reprendre la chanson avant qu'elle ne sorte. C'était une sorte de sale tour que j'ai joué à The Leaves. Il s'est avéré que ces mots sont ceux qui, par la suite, se sont retrouvés sur le disque et que tout le monde utilisera. Cette première sortie des Leaves contenait également un couplet supplémentaire, un clin d'œil à l'ancien nom de Love. Cet enregistrement original crédite la chanson comme étant du domaine public. Apparemment, Brian McLean avait refusé de dire aux Leaves qui avait écrit la chanson. Et ils ont donc supposé que c'était une chanson traditionnelle adaptée. Elle est sortie en novembre 1965, mais seulement en tant que single promo. Il pensait que la chanson était dans le domaine public, et les crédits d'écriture sur le disque sont donc partagés entre Gary Usher et W. Hell, que personne n'a plus réellement identifié depuis, et Tony Cost, un pseudonyme de Nick Venett, le producteur de la session. Usher a déclaré plus tard « J'ai obtenu le crédit d'écriture sur cette chanson parce qu'on m'a dit, ou j'ai supposé à l'époque, que la chanson était du domaine public, c'est-à-dire une chanson sans droit d'auteur. » Elle avait déjà été enregistrée deux ou trois fois et à chaque fois, le crédit d'écriture était différent. Dans le cas d'une chanson traditionnelle, la personne qui l'arrange s'attribue le mérite de l'écriture. J'ai peut-être changé quelques mots, arrangé ici et là et produit la chanson, mais je ne l'ai certainement pas coécrite. Le crédit du domaine public apparaît également sur la deuxième tentative de recomposition de la chanson par The Leaves, qui fait l'objet d'une sortie, mais fait un flop. Mais lorsque les Leaves ont enregistré la chanson une troisième fois, toujours pour le même petit label, Mira, le titre est devenu un succès, en mai 1966, atteignant le numéro 31. Et cette version avait ce qu'il pensait être le crédit correct de l'écriture de la chanson, Dino Valenti. La nouvelle arriva aux oreilles de Billy Roberts, qui avait déposé les droits d'auteur de la chanson en 62, bien avant Valenti, et n'avait aucune idée qu'elle était devenue un élément essentiel du rock garage de Los Angeles, jusqu'à ce qu'il entende sa chanson dans le top 40 avec le nom de quelqu'un d'autre au générique. Il s'en prend alors à Third Story Music, qui accepte un compromis. Il cesse de verser à Valenti les droits d'auteur et les reverse à Roberts, à condition qu'il ne les poursuive pas en justice, et qu'il leur laisse les droits d'édition. Roberts est indigné par cette décision. Il mérite tout l'argent, pas seulement la moitié. Mais bon, il accepte pour éviter un procès qu'il risque de ne pas gagner. Roberts était donc le compositeur crédité sur les versions de la scène de Los Angeles. Mais bien sûr, Dino Valenti jouait aussi sa chanson à d'autres personnes. Et l'une de ces personnes était Vince Martin. Martin avait été membre d'un groupe folk-pop appelé les Tarriers, dont les membres comprenaient également la future star de cinéma Alan Arkin, et qui avait eu un succès dans les années 50 avec Cindy Oh Cindy.
Mm-hmm. a letter soon and I'll be homeward bound. I joined the Navy to see the world, but nowhere could I find a girl as sweet as Cindy, the girl I left behind. I've sailed the wide world over, can't get her out of my mind. Cindy, oh Cindy, Cindy, don't let me down.
May Martin était devenu un folkie de Greenwich Village en duo avec Fred Neil et avait enregistré un album avec lui sous le nom de Neil & Martin sous le titre Tear Down the Walls.
Walk me out in the morning dew, my honey. Walk me out in the morning dew today.
Can't walk you out in the morning dew. Walk you out in the morning dew today.
Thought I heard a young man moaning low. Thought I heard a young man moaning.
La chanson que nous venons d'entendre, Morning Dew, était une autre chanson folk à questions-réponses. Elle a été écrite par la chanteuse folk canadienne Bunny Dobson, mais après que Martin et Neil l'aient enregistrée, elle a été reprise par Tim Rose, un ami de Martin, qui a également inscrit son nom au générique sans l'autorisation de Dobson, pour une version qui a fait de la chanson un standard du rock pour lequel il continue de percevoir des royalties. Écoutons la version de Morning Dew par Tim Rose.
Walk me out in the morning dew, my honey. Walk me out in the morning dew today. Can't walk you out in the morning dew, my honey. Can't walk you out in the morning dew at all. Thought I heard a young girl crying, mama. Thought I heard a young girl cry today. You didn't hear no young girl crying, mama. You didn't hear no young girl cry at all. Walk me out in the morning to my honey. Walk me out in the morning to today.
Can't walk you out in the morning to my baby. Can't walk you out in the morning to at all.
Et c'est quelque chose que Rose semble avoir pris l'habitude de faire, même si, pour être juste envers lui, cela allait dans les deux sens. Lorsqu'il faisait partie d'un groupe appelé The Big Three, avec Cass Elliot et son futur mari Jim Hendrix, ils ont enregistré cette chanson, Rose mettant une nouvelle musique sur les paroles de l'ancienne chanson du domaine public « Oh Susanna ».
Thank you.
Well, now it rained so hard the night I left. The wind blew a terrible storm. So I'm heading on up that old muddy river where the sun gonna keep me from harm. Oh, oh, oh.
Et le groupe Shocking Blue a utilisé cette mélodie pour leur tube numéro 1 de 1969, Venus, sans en donner aucun crédit à Rose. Une autre chanson que Rose a récupérée de Vince Martin était « Hey Joe ». Martin avait récupéré la chanson de Valenti, mais ne savait pas qui l'avait écrite, ou qui prétendait l'avoir écrite. Et il a dit à Rose qu'il pensait qu'il pouvait s'agir d'une vieille ballade des Appalaches sur le meurtre ou quelque chose comme ça, une murder ballade. Rose a pris la chanson et en a revendiqué le crédit d'écriture en son nom propre. Il a toujours prétendu pour le reste de sa vie, que c'était un vieil air folklorique qu'il avait entendu une fois en Floride et qu'il avait réécrit en grande partie lui-même. Mais aucune preuve de la chanson n'a jamais été trouvée avant l'enregistrement du droit d'auteur de Roberts, et la version de Rose est fondamentalement identique à celle de Roberts dans la mélodie et dans les paroles. Mais Rose prend sa version à un rythme beaucoup plus lent, et sa version sera le modèle de bien des versions beaucoup plus réussies par la suite. Bien que ces autres versions utilisent les paroles que Johnny Eccles avait réécrites à la va-vite pour faire une blague, plutôt que celles que Rose a utilisées.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? Hey Joe, where you going with that money in your hand? I'm going downtown, I'm gonna buy me a blue steel 44. Going downtown, buy me a blue steel 44. Hey Joe, where you going with that, that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman, I caught her with another man. You know I'm gonna shoot my woman, 'cause I caught her with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down. Hey Joe, well I heard you shot your woman down, you shot her down.
Et c'est la fin de la première partie. Prochain épisode, on parlera beaucoup de Jimi Hendrix.
Yes, I did. When I caught her out of running round, I shot her. Hey Joe, where are you gonna go now? I guess I'll
les sources et les notes de bas de page, il faudra vous reporter à la fin de la deuxième partie de cet épisode que vous entendrez dans 15 jours. Bonne continuation, à plus.